Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Bonne année à tous les fidèles auditeurs de cette émission. Comment maximiser les chances de trouver un emploi en 2026? L'année passée, ça n'a pas marché, mais cette année, ça peut marcher. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alain Poutou, expert en ressources humaines et formateur au Centre de formation et de reconversion professionnelle, est notre invité aujourd'hui. Monsieur Alain Poutou, bonjour et bonne année.
Bonjour, monsieur le prédicateur de la reconversion. Bonne année à tous les auditeurs d'Okapi Service. Bonne année aussi aux parents qui nous suivent et surtout aux abonnés de la reconversion professionnelle.
Professionnelle. Et vous, on vous appelle le prophète de la reconversion. Ben, ce sont les auditeurs qui l'ont surnommé ainsi. Des questions et préoccupations, appelez déjà au 089-55-98. 337 089 55 98 337. Dieudonné Nyangas à la mise en onde, grâce au Wesolo, assure la coordination et la réalisation de cette émission avec Benjamin Modimbi. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Encore une fois, bienvenue dans ce magazine, la première émission de l'année 2026. Une nouvelle année a commencé avec son lot de défis et d'opportunités. Le rêve des nombreux jeunes chômeurs est de trouver cette année un emploi décent et rémunérateur. Un travail qui fournit un revenu permettant un niveau de vie décent et qui s'exerce dans les meilleures conditions. Cependant, le découragement et le désespoir ont gagné beaucoup d'entre eux, beaucoup de jeunes, face à la rareté des opportunités d'emploi et des stages professionnels. Pour les experts, rien n'est perdu tant que vous n'avez pas encore postulé au moins 50 fois. Alors, quelle stratégie mettre en place cette année 2026 pour maximiser vos chances de trouver un job? N'attendez pas les dernières minutes, composez déjà le 089 55 98 337 pour participer à l'émission au Capi Service de ce jour. Alain Poutou est expert en ressources humaines et formateur au Centre de formation et de reconversion professionnelle. Alain Poutou, une nouvelle année a commencé. Ils sont là, nombreux, ils ont tenté, ils ont cherché le boulot l'année passée, ça n'a pas marché. Voilà, on est dans une nouvelle année, rien n'est perdu, comme on l'a dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour maximiser les chances de trouver un boulot cette année?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question pertinente. Pour répondre à cette question, je vais vous répondre ça en deux volets. Le premier volet, c'est le volet d'abord de l'évaluation ou du bilan personnel. Quand les gens disent qu'ils ont cherché de l'emploi, ils n'ont pas trouvé toute l'année 2025, la question, comment ont-ils cherché cet emploi? Quelle était la méthodologie ou l'approche de la recherche d'emploi qu'ils avaient mis à profit? Parce qu'il y a un homme sage qui a dit ceci, c'est votre approche qui détermine votre reproche. C'est-à-dire, c'est la manière dont vous approchez des choses qui détermine comment est-ce que ces choses-là peuvent influencer positivement ou négativement dans votre vie. Parce que les gens sont contents, ils disent qu'on cherche de l'emploi. Mais la question, comment cherchent-ils cet emploi-là? Donc, il faudrait d'abord que tous les auditeurs qui nous entendent, que vous soyez parents, vous avez sponsorisé les études académiques de vos enfants, et que ces enfants ont fini les études, ils n'ont pas d'emploi, ou alors vous-même, vous êtes universitaire, vous avez cherché de l'emploi, vous n'en avez pas trouvé. Commencez d'abord, dès le mois de janvier, heureusement que vous avez été révélé, de choisir ce sujet dès la première semaine
du mois de janvier.
Du mois de janvier et de cette année 2026. Parce que tout doit commencer par là. Parce que les gens, souvent, monsieur le journaliste, en fait, ils font très mal la planification professionnelle. Vous voyez, donc il faudrait que chacun puisse se remettre en cause, que chacun puisse procéder à un bilan sincère, un bilan personnel, une évaluation personnelle. Cette évaluation doit s'articuler premièrement en 2025. combien de fois que j'ai consulté les offres d'emploi. Parce que je vous avais dit, un chercheur d'emploi c'est qui? Parce qu'il faut faire la différence entre un chercheur d'emploi et un demandeur d'emploi. Les chercheurs d'emploi, c'est toute personne qui a un profil qui correspond au profil recherché par le recruteur. D'abord, vous devez avoir un profil qui correspond au profil recherché par les recruteurs ou au profil recherché par les marchés de l'emploi. Alors, il faut vous poser la question. Quels sont les profils recherchés par les recruteurs?
Oui.
En termes des offres d'emploi qui ont été publiées en 2025, ces offres-là exigeaient quel profil? Quels étaient les profils qui étaient recherchés? Et vous qui avez postulé, combien de fois vous avez consulté les offres qui correspondait à votre profil? C'est ça d'abord l'évaluation qu'il faut faire.
Oui.
Donc, évaluer d'abord les opportunités du marché d'emploi, comparer les profils recherchés à votre formation initiale ou votre formation académique. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens ont des difficultés d'abord, premièrement, pour trouver les offres d'emploi. Ça, il faut vraiment qu'on puisse reconnaître ça. Parce qu'on est dans un système où on nous a déjà mis dans la tête que pour trouver de l'emploi au Congo, il faut avoir des ramifications en politique.
Il faut avoir des parapluies.
Il faut avoir des parapluies. Et les auditeurs, à plusieurs reprises, nous ont dit ça ici, que au Congo, on ne recrute pas par compétence. Ça, c'est les auditeurs qui nous ont dit ça ici. Que non, question d'avoir votre oncle à la mandataire quelque part ou quoi, et les gens sont embauchés. Alors, ils oublient que ça, c'est ce qu'on appelle les marchés fermés. C'est-à-dire un marché qui obéit à un certain nombre de critères. Il faut avoir des parapluies, il faut avoir quelqu'un qui doit
vous pistonner comme on dit,
ouais. Dès que votre oncle, votre cousin, tante ou qui là devient mandataire public, il va user de son influence pour établir la liste des gens qu'on doit embaucher, même si il n'y avait pas la possibilité qu'on embauche. Et vous qui êtes là, dès que on change de mandataire, c'est lui qui vient, c'est vous serez plutôt, comme on dit, chasse à la sorcière, c'est vous qu'on doit écarter pour vous faire remplacer par quelqu'un d'obédience, soit ouais. Obédience exotérique ou obédience politique ou tribale, que vous ayez commis une faute ou pas, que vous soyez compétent ou pas,
on vous balaye
parce qu'on n'a pas la culture de continuité.
Oui.
Mais ça, on est dans les marchés fermés. Mais il existe aussi ce qu'on appelle les marchés ouverts. Les marchés ouverts, au fait, c'est un marché dont les critères de sélection ou le processus de recrutement semblent être un peu transparents. Mais simplement, les exigences du marché ouvert sont très compliquées et ne cadrent pas avec la formation académique. C'est là qu'il y a les problèmes. Donc, quand vous faites cette évaluation, vous-même, vous devez vous dire, en 2025, combien d'offres d'emploi que moi j'avais consulté, c'était dans quel poste, qui est-ce qu'on cherchait, est-ce que si je comparais les profils recherchés à ma formation académique, est-ce que je me retrouve ou je ne me retrouve pas, quelles sont les compétences qui me manquent ou qui m'ont manqué par rapport aux offres d'emploi que j'ai trouvées en 2025. Vous voyez, donc c'est cette évaluation là qu'il faut faire.
Oui.
Ça vous permet au fait d'avoir la cartographie, de prendre la température du marché de l'emploi. Alors, quand vous terminez maintenant cette évaluation, on passe maintenant à ce qu'on appelle l'étape de la planification professionnelle. C'est ça maintenant 2026. Vous voyez? C'est maintenant 2026. Alors, qu'est-ce que on doit faire? La première des choses qu'il faut faire en 2026, et heureusement, dans votre préambule, à l'introduction, vous avez très bien situer la problématique. Vous avez même orienté, moi j'appelle ça un message d'encouragement,
oui.
aux auditeurs, disant que l'espoir n'est pas perdu. Vous voyez, c'est-à-dire que tant que voilà, il faut pas se décourager,
tant que vous n'avez pas postulé
50 fois sur une période de 6 mois, il faut pas tirer la conclusion que il y a pas d'emploi. Vous voyez, alors en 2026, c'est là que la planification doit commencer. Et je suis content pour les auditeurs qui nous suivent déjà aujourd'hui, parce que la recherche d'emploi commence déjà aujourd'hui. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait d'abord identifier des compétences recherchées par les marchés de l'emploi et que vous n'en possédez pas.
Ouais. Et comment avoir les informations sur les profils recherchés?
Mais justement, c'est pour cela qu'on parle de la loi des 555 dans les techniques de recherche d'emploi. Il faut exploiter la loi des 555 pour être en contact avec les profils recherchés par les marchés d'emploi. Vous verrez, monsieur le journaliste, beaucoup de gens ont des téléphones Android, ils mettent les mégas, mais qu'est-ce qu'ils font avec ces téléphones-là? Ils sont là sur Facebook, parfois il y a des groupes WhatsApp qui se créent sans
votre consentement.
Oui, on vous met dedans, oui. Mais aussi les informations qui circulent dans ces groupes WhatsApp-là, c'est juste pour ovationner des politiciens, les acclamer.
Ou les insulter.
Voilà, leur faire des éloges inutilement, même si sur le terrain on ne voit pas ce qu'ils font concrètement.
Ouais. Ça, c'est de la distraction.
Ça c'est de la distraction. Alors on devait utiliser ces mégas, on devait utiliser ces téléphones Android pour chercher les sites internet. Parce que ce qu'il faut comprendre, monsieur les journalistes, il y a les offres d'emploi parfois qui sont publiés dans des différents sites internet, mais il y a des autres offres d'emploi qui sont affichées aux valves des organisations internationales ou des multinationales. Mmh. Alors, vous devez aussi élaborer un plan de marketing professionnel. C'est-à-dire que vous donnez au moins une discipline. J'ai comme objectif, par semaine, je dois consulter au minimum 2 fois les offres d'emploi. Ça, c'est un objectif qu'il faut se fixer. Donc, au minimum 2 fois par semaine, je dois être en contact avec les offres d'emploi. Ça, il faut déjà le faire dès le mois de janvier. Maintenant, il faut chercher aussi, quand on parle du réseautage ou les réseaux, ce n'est pas les gens qui doivent vous propulser, mais les gens qui peuvent vous aider à vous donner des informations concernant les opportunités du marché d'emploi. C'est-à-dire, par exemple, vous ici, vous avez la possibilité d'avoir l'Internet 24 heures sur 24, s'il faut le dire dans ce sens, soit oui. de 8h à 17h, mmh. Vous avez la possibilité d'avoir l'Internet. Donc, vous pouvez consulter les offres d'emploi, les imprimer ou les enregistrer dans votre...
Mais d'ailleurs, Radio Okapi publie les offres d'emploi régulièrement.
Voilà. Mmh. Donc, il faudrait avoir quelqu'un qui aussi, lui, a la possibilité de vous envoyer les offres d'emploi ou les opportunités du marché d'emploi. Maintenant, quand vous les recevez, alors, ce qu'il faut éviter de faire, c'est quoi, messieurs les journalistes? C'est parce que les gens, parfois, ils lisent les offres d'emploi en diagonale. Excusez-moi de le dire dans ce sens. Mmh. Quand je dis ils lisent ça en diagonale, c'est-à-dire les gens, quand ils ont les offres d'emploi, ce qui les intéresse, c'est le titre du poste et la date de la clôture des dépôts,
la rémunération
des dossiers. Et dans d'autres offres, on met la rémunération. Mmh. Mais maintenant, quand vous recevez l'offre d'emploi, il ne faut pas trop se focaliser sur les diplômes recherchés. Je vous ai dit ça ici sur ces mêmes, dans ces mêmes studios, que un recruteur sérieux ne recrute pas les diplômes. Ça, c'est vraiment une illusion que beaucoup de gens font.
Oui. Ils voient beaucoup plus les diplômes et l'expérience. Ça,
voilà. Les recruteurs, ce qui l'intéresse, il y a deux choses. Il y a l'expérience professionnelle, c'est-à-dire ce que vous avez déjà fait par rapport au poste pour lequel lui, il a publié l'offre,
oui.
Et vos compétences, c'est-à-dire ce que vous êtes capable de faire. Les diplômes, là, parfois, parmi les critères de sélection, ça ne représente que 20%.
Un instant, nous avons déjà 4 auditeurs.
Ah, c'est intéressant.
On va les accueillir. Maître Charles Bamouswana, vous êtes à Bounia. Maître Gaston Akin, Christian Kakes également à Kinshasa. Ainsi que Maître Omar Kigalo. Maître Charles Bamouswana, bonjour et bonne année.
Bonjour, bonne année jeudi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Quelle est votre question?
Ok, merci. Je suis en train de vous suivre, le développement de l'invité. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Quand tu viens de dire que le recruteur ne doit pas du tout se focaliser à ce qui concerne le diplôme de l'individu qui a postulé. Or, dans plusieurs offres d'emploi que nous sommes en train d'écouter par-ci, par-là, dans notre pays, on voit que les diplômes. Il faut avoir un master, il faut avoir une licence, il faut avoir le doctorat. Dans ce cas, même si l'individu en a de l'expérience, l'individu en a des performances, mais il n'avait pas arrivé au niveau où on demande les diplômes en question, comment est-ce que l'individu en question va postuler dans ses offres d'emploi? Et ma deuxième question à suivre, c'est quoi? enfants. Dans ces pays, nous voyons que les offres d'emploi sur base de titres. Pourquoi ne pas avoir des offres d'emploi sur base, donc sur le cas général? Supposons par exemple, ici on cherche que des personnes qui vont s'en occuper dans les officines, qui vont faire des offres. Donc on peut les considérer comme des gens qui vont commencer à recruter devant le bureau des directeurs et tout consort. Et pourquoi pas des journaliers, des simples personnes là. Parce que pour ne pas seulement se focaliser dans des diplômes et des niveaux académiques, or il y a des diplômes au niveau des formations, parce qu'il y a des centres de formation qui sont presque remplis dans notre pays, mais tous ces diplômes en question ne sont pas considérés parce que ça ne vient pas de l'université. Dans ce cas, qu'est-ce que l'invité peut au moins nous dire pour le moment?
Merci beaucoup, Maître Charles Bamoussouana. Maître Gaston Gandou de Kinshasa, bonjour et bonne année. Quelle est votre question? Maître Gaston, merci d'ouvrir votre micro. Allô? Oui, bonne année, Maître. Quelle est votre question?
D'accord, je salue aussi tout le monde. Bon, j'aimerais un peu avoir une idée sur... les emplois, hein, on a vu les offres par-ci par-là. Si l'invité a une idée sur le nombre exact des emplois qui ont été créés l'année passée, non seulement créés, mais actuellement occupés par les chômeurs. Et puis, est-ce qu'il peut y avoir, parce qu'on ne doit pas naviguer à vie, en 2000, disons, à l'année qui vient de passer, quel était le nombre exact de chômeurs en RDC? Il y a une étude qui se fait dans ce sens-là. Et puis, je voulais un peu demander aussi à l'invité,
oui.
Par rapport aux méthodologies en soi, hein, moi j'imagine, à mon avis, que les gens ne savent aussi pas comment postuler. Hein. Actuellement, c'est un peu en présentiel. Et prenons même le cas de ceux qui sont à l'intérieur du pays où on demande le dossier physiquement. C'est un peu difficile que ça arrive à Kinshasa ici. La plupart des offres, les dossiers physiques doivent être déposés à Kinshasa. Et pourtant, même si ça soit en ligne, vous savez que les gens n'ont pas vraiment une notion comment
postuler, répondre à une offre. D'accord. Merci beaucoup. Ça. Merci, maître.
On va donner. Je voulais finir.
Oui.
Voilà. J'ai une chose qui me préoccupe. C'est concernant la qualité, hein, les compétences que nous ne disposons pas, nous qui prétendons avoir un travail demain. Nous n'avons pas de compétences, ça vraiment, c'est quelque chose que vous décriez. Est-ce que dans un monde où on trouve beaucoup de gens ignorants, incompétents, se prétendre avoir un travail de main, bon, il faut vraiment insister sur que les gens se forment pour avoir des compétences.
D'accord, merci maître.
Parce que moi je constate que des fois, on prétend avoir un travail,
mais on est incompétent.
On n'a rien à donner.
D'accord. Merci. Christian Kakes, vous êtes aussi à Kin. Bonjour et bonne année. Merci d'ouvrir votre micro, Christian. Allô?
Je passe bien maintenant, vous faites.
Oui, c'est bon maintenant. On vous écoute, Christian.
Oui, mais c'est Christian Kakes, à titre de rappel.
Christian Kakes, c'est ça?
Comment? Kakes.
KCC, merci beaucoup.
Je vous en prie. Comment maximiser les chances pour les opportunités d'emploi pendant l'année 2026? Moi, je pense que d'abord, la première chance consiste d'abord à postuler lorsque le recrutement a lieu sur concours. À partir de là, vous pouvez déjà espérer avoir certaines chances d'être employé. C'est-à-dire, il faut multiplier à postuler aux différentes offres d'emploi qui sont émises par l'employeur. Et donc, pour l'année ici, tout peut aller aussi bien, mais ça dépend toujours aussi des nombres d'employeurs qu'il y en a. Souvent, vous trouverez qu'ici, dans la RDC, il y a plus d'employés ou plus de chômeurs que moins que les emplois. Ce qui carrément réduit la chance pour le chômeur à pouvoir à être recruté. Ça, c'est sûr. Ce qui souvent d'ailleurs entraîne les questions de recommandation, trafic d'influence, corruption, et puis les autres mots, qu'en sais-je. Alors, je voudrais poser à l'invité des petites questions. La première, pourquoi a-t-il tendance à ignorer la primauté de la compétence et l'expérience professionnelle? Puisque dès lors qu'on est compétent, ça veut dire qu'on a une certaine aptitude à accomplir certaines tâches, surtout lorsque on arrive à les définir nommément. Parce que je ne vois pas un licencié bien formé en économie et qui se retrouve face à un diplômé, en option commerciale et qui ne soit pas en mesure de remplir les tâches que ce diplômé-là accomplissait. Il suffit juste que d'une simple mise au sommaire de ces tâches-là accomplies. Et de là que moi, je pense que la compétence l'emporte sur l'expérience professionnelle.
D'accord.
La deuxième question,
oui,
c'est de savoir comment le système de réseautage fonctionne dans un monde où le marché de l'emploi souvent n'est pas divulgué. Ça veut dire souvent aussi il y a certaines offres, surtout ce qui concerne, parce que quand on dit l'emploi, ce n'est pas le secteur privé, on aborde plus le secteur privé. Mais s'agissant du secteur public, souvent les postes à pourvoir ne sont toujours pas divulgués au grand public. Comment arriver en réalité à pallier à ces fléaux? Merci beaucoup.
Bien, merci Monsieur Christian Kassessé de Kinshasa. Maître Omar Kigalo, vous êtes aussi à Kin. Bonjour et bonne année.
Bonjour et bonne année à vous, Monsieur Jody. Bonjour également à l'invité. M'en vais rapidement à mes questions. La première, c'est celle relative à l'expérience professionnelle. Nous sommes encadrés de jeunes et souvent cette question nous revient. Nous avons là la compétence, on est pris, mais on nous oblige une expérience qu'on n'a pas. Comment un jeune peut contourner cette condition-là? Deuxième question, parmi les indicateurs du PNUD sur le développement, on parle aussi de l'accès aux revenus ou l'accès à l'emploi. Est-ce que l'invité peut nous aider à dire aujourd'hui quel est le taux des Congolais qui ont accès à l'emploi dans les secteurs privés et dans les secteurs publics? Je finis avec cette préoccupation majeure, M. Malin Poutou. J'ai lu un économiste de développement, le professeur Akerlof. Dans son livre « Esprit animaux », il précise qu'il y a trois catégories d'emploi. L'emploi indépendant ou libéral, l'emploi collaboratif ou associé, ainsi que l'emploi subordonné. Mais j'ai comme l'impression, lorsque vous intervenez, vous vous limitez à l'emploi subordonné. C'est-à-dire, dans la conception congolaise, quand on dit emploi, on suppose quelqu'un qui travaille pour un patron. Alors que le terme implanté est un terme polysémique. Pourquoi n'élargissez pas vous votre formation? Je vous donne mon cas. Je suis aussi préoccupé par un emploi. Mais mon emploi, ma profession est libérale. Je suis moi-même mon patron. Alors, je n'ai pas besoin de CV, d'une demande d'emploi. Quand je finis mes études, je fais mon test, le barreau m'admet. Je vis de mes prestations. Je prends le cas de M. Lédia, que vous connaissez, qui n'a aucun diplôme universitaire, mais qui est un patron congolais. Il a dit, quand il était enfant, tout ce qu'on lui remettait pour l'école, il les gardait de côté. Quand il a eu son diplôme d'État, il a cassé sa caisse, il a commencé son activité. Aujourd'hui, il est plus riche que des docteurs en droit, docteurs en économie. Je voudrais que prochainement, que vous puissiez aussi mettre l'accent sur d'autres formes d'emploi. L'emploi associé, par exemple. Deux jeunes qui finissent à l'UNIKIN peuvent se réunir et créer une entreprise. Ils n'ont pas besoin d'un CV, d'une expérience professionnelle. Donc, on a comme l'impression qu'on nous acculture avec le Belge. On doit toujours être demandeur d'emploi et non créateur. C'est ça ma préoccupation. J'apprécie ce que vous faites. Je vous loue, vous méritez même une médaille. Mais il ne faut pas se limiter à l'emploi subordonné. Je connais beaucoup de jeunes qui ont créé les emplois et qui émergent. Je vous parle d'un garçon qui s'appelle Benji 4, qui est humoriste. Il n'a pas fait demande d'emploi. Il découvre qu'il a un talent d'humour. Mmh. Il a fait des formations. Aujourd'hui, il voyage dans le monde entier.
L'auto-emploi.
Donc, il faut aussi accentuer. C'est un emploi. Mmh. Parce que l'emploi en économie est défini comme toute activité humaine.
produite pour le compte de l'autre ou pour son propre compte, moyennant une rémunération. Aussi longtemps que l'activité économique me rémunère, c'est un emploi. Mais si je dis peut quitter la radio Okapi, il crée son agence, il fait ses émissions, on les paye, c'est un emploi. Donc veuillez aussi accélérer ou accentuer cela, sinon on sera là à condamner l'État qui donne que la, le travail au deuxième bureau, troisième bureau, et on va mourir comme ça.
Merci, merci beaucoup, Maître Omar. Merci pour toutes ces préoccupations. Monsieur Alain Poutou, à vous la parole.
Merci beaucoup. Je vais commencer par répondre à Maître Omar. C'est vrai que je vous demanderai de me laisser les cinq dernières minutes pour que j'explique un peu le centre de formation et de reconversion professionnelle. Ça va permettre à Monsieur Omar de comprendre ce qu'on fait. Nous ne faisons pas seulement la formation pour les demandeurs d'emploi. Nous avons deux volets d'activité. On a la formation professionnelle et on a l'entrepreneuriat, parce qu'il faut former les gens dans les deux volets. Il y a le volet entrepreneurial, il y a le volet aussi de la de l'emploi formel. Pourquoi? Parce que pour qu'une personne puisse créer sa propre structure ou son entreprise propre, la personne a besoin premièrement des moyens, les ressources. Dans ces ressources-là, il y a les ressources matérielles, il y a les ressources financières, il doit recruter aussi des collaborateurs, les ressources humaines. Maintenant, pour une personne qui n'a pas d'argent, comment est-ce que la personne peut créer une petite activité génératrice de revenus? Deuxièmement, même pour gérer votre propre entreprise, vous avez besoin de passer par une autre entreprise pour apprendre les rudiments d'une entreprise, les procédures, les mesures disciplinaires, comment on tient la caisse, comment on présente par exemple les rapports d'activité. C'est pour cela qu'il est important. Beaucoup de gens même qui échouent dans les business sont des gens qui commencent les activités par intuition sans pour autant passer par une expérience terrain. Vous voyez, donc normalement, vous devez d'abord apprendre, ça c'est très important, après avoir été formé, vous devez appliquer, c'est-à-dire travailler quelque part et ensuite aller créer votre propre entreprise. C'est comme ça que même nous, dans notre évangile de la reconversion, nous déconseillons même des gens d'avoir cette culture qu'on appelle le vœu de stabilité. Où quelqu'un, quand la personne est dans une entreprise, elle a 40 ans ou elle a 30 ans, la personne réfléchit qu'à la retraite. C'est-à-dire, je suis entré jusqu'à ce que je vais avoir ma retraite. Oui, oui. Voilà, ça c'est une mauvaise pensée. Alors, il a posé aussi la question sur, oui, parler de la catégorie des emplois. Bon, il est avocat, je suis content. Mais vous pouvez poser la question à Maître Omar. Ici, je ne suis pas en train de parler de la profession d'avocat. Il peut prendre les répertoires du barreau dans lequel il est enregistré, qui regarde le nombre des avocats inscrits au tableau. Mais c'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens au tableau? Est-ce que c'est parce que réellement, ils veulent être dans la profession libérale parce que c'est comme ça qu'on les a formés? Non. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé de l'emploi en rapport avec la formation qu'ils ont suivie. Parce que quand quelqu'un est étudiant, par exemple, aux facultés des droits, je peux prendre juste un exemple parce que je suis en train de répondre à Maître Omar. C'est-à-dire, on vous dit déjà que, déjà en première année graduée à l'auditoire, je suis passé par là, les gens, entre collègues ou entre étudiants, vous vous appelez maître, maître, parfois à tort et à raison. Vous voyez un peu. Alors, parce que dans la tête, on s'est dit que j'ai fait les droits, si j'ai fini, je serai conseiller juridique ou avocat conseil ou je serai à la magistrature. Si je ne trouve pas ici, je vais au barreau, je deviens indépendant. Mais ce n'est pas que parce qu'ils veulent créer des emplois. Non, c'est parce qu'il n'y a pas, d'opportunité. Alors, aussi, c'est par rapport à notre formation. Mais il a parlé des cas, il a cité M. Lédia, qui est un grand opérateur économique.
Un entrepreneur.
Hein. Entrepreneur. Mmh. Mais d'ailleurs, la majorité des millionnaires sont des gens qui ne sont pas passés par l'école. Mais nous ici, c'est quoi? C'est un système. C'est-à-dire, quand vous avez votre enfant, dès que l'enfant a un diplôme d'État, l'évangile est axé sur l'université. C'est-à-dire, on fait croire à la personne pour devenir utile dans la vie, il faut aller à l'université. Et la personne aussi va à l'université. On se retrouve dans un système où on a plus de diplômes que les opportunités d'emploi sur les marchés. Et ces diplômes-là tournent tout autour de quoi? Les droits, économie, relations internationales, sciences politiques, médecine. Donc, ça tourne tout autour de ça. Mmh. Vous voyez? Alors que le marché de l'emploi est en pleine mutation. C'est-à-dire, les réalités actuelles du marché de l'emploi ne sont pas les mêmes que celles qui ont motivé à ce que l'université soit créée. Voyez, parce que parfois, on ne prend pas le temps de bien analyser. Quand on a créé l'université, c'était quand les missionnaires sont arrivés évangéliser au Congo. C'était juste pour aider les missionnaires jésuites qui venaient ici pour évangéliser, d'avoir les mêmes programmes que leurs confrères qui étaient restés en Europe. Mm. Alors, on a calqué des filières qui correspondaient à ce que leurs confrères en Europe faisaient aussi. Mais là, on parle des affaires de 1954-56, mais ici, on est en 2026. Les réalités du marché d'emploi ne sont plus les mêmes. Maintenant, pourquoi le système éducatif est resté obsolète sans pour autant tenir compte de l'évolution du marché d'emploi? C'est là que se situent les problèmes. Alors, la formation académique n'a pas été conçue pour former des entrepreneurs. C'est une formation calquée pour former des subordonnés, les demandeurs d'emploi. J'ai fait aussi les études en sciences commerciales et financières. Monsieur Jody, je vais vous choquer. Les cours de mathématiques générales, c'est un cours de pondération 8, mais les cours d'entrepreneuriat, pondération 2. Mais comment voulez-vous former quelqu'un qui doit créer de l'emploi alors que la charge de cours que la personne reçoit des premières années graduées jusqu'en deuxième licence, actuellement on parle des LMD, voilà, oui. Jusqu'au deuxième master 2, les cours tournent tout autour de la réflexion, comment travailler chez autrui, comment gérer les entreprises d'autrui, mais les cours en rapport avec l'entrepreneuriat, c'est généralement les cours de pondération 2. Et vous voulez que quelqu'un qui finit avec un système pareil soit capable de créer. Est-ce qu'elle elle a été vraiment formée pour créer? Ça aussi, il faut que...
Charles a posé la question, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, les journaliers par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités pour les gens qui n'ont pas de diplôme mais qui ont des compétences,
oui, mais même,
qui ont des talents?
Oui, mais même ceux-là qui ont des diplômes, est-ce que leurs diplômes correspondent aux besoins des recruteurs? Je crois toujours Maître Omar qui a parlé de la problématique des années d'expérience, où quelqu'un sort de l'université, mais dans les offres d'emploi, on lui exige d'avoir 2 à 5 ans d'expérience alors que la personne n'a pas encore travaillé. Moi, j'aime qu'on pose des questions de fond. Restons dans les faits. Pourquoi est-ce que les recruteurs exigent les années d'expérience, sachant très bien que ceux qui cherchent de l'emploi n'ont pas encore travaillé? C'est là où je vous ai dit, les recruteurs, les diplômes tels que vous voyez dans l'offre d'emploi, c'est juste une exigence de la législation sociale. On veut par exemple pour tel poste, il faut avoir tel niveau d'études. Mais lorsqu'on fait la présélection, les gens déposent les dossiers, ils postulent. Lorsqu'on commence à faire la sélection, on commence à trier. Je vous dis que les diplômes n'ont que 20%. Okay? Les autres critères de sélection ont plus de pondération que les diplômes. Ouais. Donc les recruteurs, pour lui, ce qui l'intéresse, c'est un profil prêt à être opérationnel. Or, en sortant de l'université, étant donné que notre formation n'a pas été conçue en tenant compte de ce qu'on doit faire au bureau, mais c'est une formation générale et généralisée, et du coup, vous aurez du mal à produire. Vous aurez besoin d'être d'abord formé, c'est-à-dire avoir une induction, même de 2 semaines, pour qu'on vous explique comment ça fonctionne sur le terrain. Et beaucoup de recruteurs, la majorité, c'est, on est dans les secteurs privés, on voit les ONG internationales, les multinationales, et ils ont aussi des contraintes. Maintenant, pour échapper à tout, ils préfèrent plutôt quelqu'un qui a déjà été dans telle entreprise, l'a occupé tel poste, et quand il vient ici, il comprend facilement ce qu'il doit faire. Alors, s'agissant des taux, il parle du taux du chômage par secteur. Malheureusement, moi je suis pas...
Mais c'est la question de Maître Gaston.
Oui, mais moi je suis pas de l'Office National de l'Emploi.
Combien
je
de nombre d'emplois créés l'année dernière?
Je ne suis pas du ministère du travail. Le plus grand problème qu'on a dans ces pays, il faut vraiment qu'on soit en mesure aussi d'accepter. Nous avons une grande faiblesse en ce qui concerne les statistiques. Vous voyez, pour arriver à répondre à sa question, j'étais en train de préparer un document sur comment réduire les taux du chômage en RDC. En fait, pour être pratique, c'est quoi? Nous avons le ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Ce ministère-là devrait aussi avoir les statistiques des nombres de diplômés par année à travers la République.
Oui.
Combien de diplômés on a selon les différentes filières que nous avons. Ça doit aller tout droit à l'Office national de l'emploi, qui doit aussi enregistrer ces mêmes diplômés. D'un côté, nous avons le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Nous avons aussi le ministère de la Fonction publics, je vous dis que avec ces quatre ici, on peut arriver à produire des statistiques fiables en ce qui concerne l'emploi. Combien de personnes formées de manière classique, combien enregistrées dans la base de données de l'Office national de l'emploi, et quand les gens trouvent de l'emploi, parce qu'aussi il y a un problème, parfois les gens n'aiment pas témoigner, même par exemple nous qui formons. Vous formez les gens qui trouvent de l'emploi.
Ils ne reviennent pas pour vous dire que...
Mais c'est les journalistes. Un autre témoignage. Avant d'arriver ici, je viens d'être quelque part. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, non mais vous m'avez formé en 2020 et je travaille à tel endroit. Il met la main dans la poche, il me donne quelque chose, il dit, mais monsieur l'expert, ça c'est votre transport. Je vais vous appeler comment, il me donne son nom. Je ne me rappelle plus
même
de lui.
Plus de lui.
Mais
lui.
Il m'a expliqué qu'il a fait la formation en ressources humaines.
Oui.
Vous voyez. Alors, les gens n'ont pas l'habitude de venir aussi informer l'ONEM que j'ai trouvé de l'emploi. Vous voyez. Pour permettre à l'ONEM d'actualiser ses statistiques. Maintenant, l'ONEM lui-même aussi en tant qu'office devait lancer des campagnes de vulgarisation pour l'enregistrement des demandeurs d'emploi et que l'État devait avoir aussi des outils pour contraindre les entreprises à publier les statistiques des personnes qui recrutent. Vous voyez, parce que j'ai parlé dans mon document là de la création de la direction nationale d'emploi, entrepreneuriat et formation professionnelle. Donc, c'est ça la difficulté qu'on a. Donc aujourd'hui là, personne ne peut vous donner des statistiques fiables en ce qui concerne le chômage en RDC. Ça
bien,
sera des statistiques approximatives.
On va accueillir deux auditeurs, Papi Mboyo depuis Mbandaka et Blaise Saïdi de Kisangani. Papi Mboyo, bonjour et bonne année.
Bonjour M. Jody. Bonjour à l'invité. Ainsi que tous les auditeurs de la radio Kati. Et mes voeux le meilleur à tout le monde et surtout à notre brillant orateur qui ne cesse à nous venir nous arroser des matières qui sont vraiment très sensibles. Voilà, enfin, nous pouvons vraiment lui complimenter et nous lui accordons beaucoup de... nous lui jetons beaucoup de fleurs.
Merci.
Monsieur Jody, avant de passer, permettez-moi de faire un petit aperçu sur la radio Kati. Hein. Aujourd'hui, nous en Bandaka, on ne sait pas. Peut-être que vous me dites un petit mot. Au Kati, vraiment, on les reçoit maintenant avec beaucoup d'amertume, quoi. Depuis après les fêtes de Nouvel An. Hein. Auparavant, c'était après les grands journaux du midi, on a des reprises, on a des reprises. Mais après la fête de fêtes de Nouvel An, hein, maintenant où je vous suis avec beaucoup, beaucoup de problèmes parce que ça coupe. Vous pouvez suivre pendant une minute ou trois minutes, ça coupe. Hein. Après un temps, ça coupe, ça retourne. Après, ben, on vous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup avec beaucoup de difficultés. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que là, ici on le mettait avec les...
Bon, moi non plus, je ne suis pas au courant, mais on va soumettre cette préoccupation à l'équipe technique de Radio Okapi. Si vous pouvez...
Ok, l'initiative est en train de fermer les portes ici à cause de ça, on ne sait pas. Alors, Tatiana Etienne, on a quand même suivi notre invité avec ses belles idées, ses belles interventions. Vraiment, nous aimons beaucoup, mais quelque chose que nous pouvons dire en parallélisme mais avec notre invité, c'est quoi? Moi, en suivant l'invité avec ses interventions, je ne partage pas vraiment d'avis avec ses idées. C'est comme si, là, c'est d'après moi, c'est comme si l'invité est en train de renier totalement l'université. Ou bien lui, il veut que les gens aillent tout droit dans la reconversion, ou après avoir l'enfant fini l'humanité, pour aller à l'université, c'est comme si lui ne veut pas que les gens aillent à l'université. Là, c'est d'après mes analyses, à lui écoutant tout ce qu'il donne comme les interventions. Mais à Tatiana Etienne, moi, j'aimerais lui demander, si le plan national, sur mon Congo, où nous avons 100 millions d'habitants, c'est que la reconversion peut aller dans, je ne sais pas si il peut estimer combien de pourcentages dans la reconversion où les gens ont trouvé des emplois. Moi, je pense que la reconversion peut-être suite, par exemple, à les ONG. Mais moi, étant agent du développement, je sais que les ONG, ce sont des choses qui viennent dans les pays en voie de développement, les pays sous-développés. Et on ne peut pas mettre vraiment un accent là-dessus sur les ONG. Mais l'invité, c'est moi qui m'appelle tout ça. Alors, les questions que je peux aller tout droit Monsieur Keke, la première question serait de savoir quels sont les éléments qui entrent dans l'évaluation pour que quelqu'un arrive à s'auto-évaluer que l'année passée qui vient de s'achever, j'ai fait ceci, cela, peut-être ça a marché, ça n'a pas marché. Comment est-ce qu'il faut faire? Les éléments qu'ils arrivent à nous étaler les éléments. Ça, c'est de 1. De 2, le meilleur, il demandait ceci. Le critère de recrutement, il dit que votre recruteur peut se focaliser sur l'expérience professionnelle, mais où il peut aller après, il n'a pas navigué. Mais dans les cas sous-examen, où vous avez 3000 candidatures, ou 2000, ou 500 candidatures, ici, à Machou, vous avez des étudiants français, dans la direction de la frontière France, un blanc, vous l'amenez par exemple à un lot de sa candidature. Il a le temps de lire. Ou bien, il va aller tout droit dans l'expert prof. Parce qu'on arrive dans cette intervention, il dit, quand il va arriver dans l'expérience professionnelle, il va encore repartir au niveau des formations.
D'accord, merci beaucoup. Merci, on va donner la question à Blaise Saïdi. Merci, on a capté votre préoccupation. Oui, vous avez pris. Vous avez déjà pris beaucoup de temps. Blaise Saïdi depuis Kisangani, bonjour et bonne année.
Bonjour, cher Jody. Bonne année à vous. Bonne année aux auditrices et auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute.
Bonne année à monsieur Alain Poutou. Et toute l'équipe qui vous accompagne, cher Jody. Je félicite monsieur Alain Poutou pour son exposé. Mais je vais demander aussi à monsieur Alain Poutou s'il peut chercher d'abord un moyen de voir le ministre de l'Éducation nationale, madame Raissa, et de voir aussi madame Safi, la ministre de l'enseignement supérieur, puisque au regard de ses connaissances, c'est bien de discuter avec le ministre, puisque ce que monsieur Alain Poutou est en train de décrier, moi je comprends bien que non, ça fait partie des systèmes éducatifs chez nous au Congo, puisque nécessairement il y a des choses qu'il faut revoir. Mais toutefois, je vais donner ma contribution à cette thématique. La clé pour réussir à la recherche d'emploi en 2026 réside dans les changements de mentalité. Il ne faut plus attendre uniquement d'être recruté, mais apprendre à créer de valeur, même à petite échelle. L'auto-formation, l'ouverture de nouvelles opportunités, vraiment, ça peut quand même chercher quelque chose hein, pour un moyen d'une personne. Et c'est lui qui investit sur lui-même, finit toujours par se démarquer. Permettez-moi de poser deux questions à M. Alain Poutou. La première question, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de décrocher un emploi? Et la seconde question, comment présenter un parcours professionnel aux recruteurs? Je pense bien que non. À ce qui concerne la deuxième question, ça va nécessiter à M. Alain Poutou de projeter une émission que l'OCAPI Service peut demander à ou encore inviter à M. Alain Poutou de nous donner un peu les détails à ce qui concerne la deuxième question. Merci.
Bien, merci à vous Blaise Saïdi depuis Kisangani. M. Alain Poutou.
Merci beaucoup, je remercie M. Blaise Saïdi qui a très bien compris la problématique. En fait, les problèmes qu'on a, c'est comme je vous ai dit,
tout est fonction de notre formation de base. Monsieur le journaliste, vous êtes l'un des journalistes expérimentés de l'Afrique.
Merci.
Je vous l'ai dit. On avait avant des institutions supérieures. Pourquoi toutes ces institutions se sont basculées maintenant aux universités? Vous comprenez? Je me dis quelque part aussi, il faut vraiment qu'on soit sincère dans ce qu'on dit. Il ne faut pas qu'on reste que dans la flatterie, qu'on reste dans des... Non, il faut qu'on soit rationnel. À l'époque, il y avait des institutions supérieures. Les institutions supérieures avaient pour vocation de former des praticiens, des techniciens, des exécutants. Les universités avaient pour vocation de former des gens à compétences conceptuelles.
L'élite,
L'élite. Mais pourquoi ces mêmes institutions supérieures sont maintenant devenues des universités? Et encore, ils se sont tous basculés dans le système LMD. Pourquoi? C'est-à-dire, on copie parfois des choses, excusez-moi les termes, sans pour autant qu'on prenne le temps de voir si par rapport à notre contexte, ça vaut la peine d'avaler une telle réforme ou pas. Vous comprenez?
Oui.
Pourquoi est-ce qu'il y a un taux élevé du chômage? Parce que nous tous, nous sommes allés vers l'université. Les gens ont mis de côté les écoles de métiers. Les gens ont mis de côté les écoles professionnelles. Je vous ai dit ici, messieurs les journalistes, les jours où on va refaire la table ronde de l'entrepreneuriat et emploi des jeunes, les jours où on va refaire les états généraux de l'enseignement supérieur universitaire, où on va faire intervenir l'excellent général qui gère les services nationaux, comment il s'appelle,
le général Kabuit.
Mais c'est quelqu'un qu'il faut, il faut intégrer dans toutes les réformes en rapport avec la réduction du chômage au pays. Je suis en train de préparer un travail technique ici, où je vous dis que c'est très facile de réduire les taux du chômage.
Et lui, il utilise tous ces, les jeunes désœuvrés pour
c'est
aller
général, c'est
devenir
des bâtisseurs. C'est vraiment une valeur ajoutée pour ces pays. C'est parmi les acteurs incontournables pour réduire les taux du chômage au pays. Je vais vous démontrer ça lors d'une autre émission.
Oui.
Alors, parce que tout le monde aujourd'hui veut aller à l'université, monsieur le journaliste. C'est pas que moi je décourage les gens d'aller à l'université. Non, moi je veux qu'on soit réaliste. Combien d'universitaires qu'on a dans ces pays par rapport au nombre d'emplois que nous avons? Encourager les gens à l'entrepreneuriat, encourager les gens à aller dans des écoles de métiers, des écoles professionnelles. Tout le monde n'est pas censé aller à l'université. Vous comprenez, c'est très important. D'ailleurs même, moi je pouvais même vous dire, aller très loin, disant que on peut même aussi arrêter les recrutements à l'université même pendant 3-4 ans, qu'on trouve d'abord solution pour ceux qui ont déjà terminé, qui peinent à trouver de l'emploi, qu'on réoriente ces gens, et puis on peut continuer maintenant à recruter à l'université.
Alors revenons pour maximiser les chances de trouver un emploi cette année.
Cette
2026,
année, oui.
Vous avez dit il faut commencer par faire un bilan
personnel. Mais il faut faire le bilan.
Ensuite, la planification.
La planification, c'est-à-dire l'acquisition des compétences que vous ne possédez pas par rapport aux opportunités du marché de l'emploi. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde, parce que j'ai entendu les auditeurs faire la confusion entre l'expérience, la compétence, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut identifier, faire aussi la cartographie des compétences, ce qu'on appelle référentiel des compétences. Les compétences recherchées par les marchés de l'emploi que vous ne possédez pas. Il faut d'abord commencer par les acquérir. Vous voyez, une fois que vous avez maintenant ces compétences-là, vous allez maintenant commencer par répondre aux offres d'emploi. D'où j'ai rejoint ce qu'avait dit Maître Omar sur la formation, sur les techniques de la recherche d'emploi. Il faut apprendre aux gens comment on postule. Que les gens sachent comment on postule. Les dossiers de candidature devaient être composés de quoi? Comment présenter un CV qui doit attirer l'attention du recruteur? Parce que qu'on ne se trompe pas. 9 sur 10 personnes ont besoin de chercher de l'emploi. Même si en fin de compte, vous allez créer votre propre entreprise ou vous serez dans l'entrepreneuriat, mais vous êtes obligé de passer par un emploi formel d'abord pour acquérir de l'expérience, essayer un peu de réunir de l'argent pour créer l'entreprise.
Pour créer votre propre structure.
Voilà. Donc, il faut former les gens sur les techniques de la recherche d'emploi. Que les gens sachent comment on présente les CV, comment on présente l'aide de motivation, comment on passe l'interview, comment on analyse l'offre. Je donne un exemple. Vous avez un diplôme en communication, en journalisme. Et que dans l'offre d'emploi, on a besoin d'un diplôme en économie. C'est-à-dire, le diplôme recherché, c'est l'économie, mais vous avez fait le journalisme. C'est-à-dire, c'est un diplôme qui ne cadre pas avec ce que l'offre demande.
Oui.
Mais quand on entre maintenant dans les job description du poste, on voit les tâches. Ce sont des tâches que vous avez eu à faire peut-être dans le cadre de l'église ou d'une autre
organisation,
mais vous faisiez ça au quotidien, bien que vous n'avez pas le diplôme recherché. Maintenant, comment présenter votre dossier de candidature? Voilà, pour que les recruteurs essayent de voir que vous mettez en avant vos compétences techniques, votre savoir-faire, quand bien même que vous n'avez pas le diplôme approprié. Et aussi, ce système où les gens passent des années, à la recherche d'emploi, des postes qui correspondent aux études faites. C'est-à-dire, j'ai fini en économie, je veux toujours des postes de finance. J'ai terminé en droit, je veux toujours des postes liés à mon secteur. Alors que les opportunités sont ailleurs. Donc, une des possibilités pour maximiser les chances d'embauche, c'est pourquoi j'insiste sur la reconversion professionnel. Parce que la reconversion, comme je vous ai dit, c'est un évangile qu'il faut prêcher partout. Que les gens sachent que si ce que je fais ne me permet pas de me retrouver dans la vie professionnelle et que les opportunités sont ailleurs, ça ne sert à rien de s'accrocher à des postes qui correspondent aux études faites.
Je change
Faites-vous former en rapport avec les opportunités du marché de l'emploi et vous allez maintenant postuler pour saisir les opportunités.
Bien, donc voilà ce qu'il faut faire cette année et en faisant cela, donc on va maximiser les chances rapidement un travail.
C'est très important. Et puis, il ne faudrait pas aussi que les gens se découragent. Vous voyez, c'est très important, la dimension spirituelle de la recherche d'emploi. Évitons de dire que pour trouver de l'emploi au Congo, il faut avoir des relations. Bien que ça, ce sont des choses qu'on vit. Mais la foi vous pousse d'abord, premièrement, à connaître ce que les marchés de l'emploi recherchent. Deux, les compétences recherchées par rapport aux opportunités du marché. Trois, les compétences que je possède que celles que je ne possède pas. 4, chercher à acquérir des compétences qui vous manquent.
Par la formation.
Par la formation. Et les formations ne doivent pas être des formations en rapport avec ce que j'ai fait à l'université, mais par rapport à ce que je trouve sur les marchés de l'emploi.
Et
la cinquième étape, c'est la loi de la détermination en béton, où je dois soumettre 50 candidatures sur une période de 6 mois après la conversion ou la reconversion. D'où je profite aussi de votre micro pour dire à tous les auditeurs que nous allons lancer les salons d'orientation et de reconversion professionnelle. Pourquoi ? Parce que, monsieur le journaliste, moi j'ai compris, même toutes les questions que les auditeurs posent ici, les gens n'ont pas été préparés sur comment intégrer les marchés d'emploi.
D'accord. Comment, donc il faut les former. Comment vous joindre pour poursuivre les discussions après?
Alors, c'est au 082 53 90 016. 082 53 90 016. Donc, on nous envoie un message WhatsApp. Oui. Vous précisez dans quelle ville vous êtes et nous allons vous orienter comment participer à nos différentes formations en entrepreneuriat et à la reconversion professionnelle.
Et avec l'espoir que cette année, ça doit marcher.
Mais ça doit être un objectif pour tout chercheur d'emploi. Parce qu'ici, il faut éviter d'être demandeur d'emploi. Il faut être un chercheur d'emploi. C'est-à-dire, j'ai un profil qui correspond au profil recherché par les recruteurs.
Bien, monsieur Alain Poutou, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes expert en ressources humaines et formateur au centre des formations et des reconversions professionnelles. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien. Dieudonné Nyangassa était à la mise en onde. Grâce à Mwezolo a assuré la coordination et la réalisation ensemble avec Benjamin Moudoumbi. Au micro, Jody Daniel Kachama, tout le plaisir était pour nous de vous servir. À la prochaine.